Quel mot pour un poète! Camusot disparut, et Lucien ne le vit plus en voyant Coralie. Était-ce un homme tout jouissance et tout sensation, ennuyé de la monotonie de la province, attiré par les abîmes de Paris, lassé de misère, harcelé par sa continence forcée, fatigué de sa vie monacale rue de Cluny, de ses travaux sans résultat, qui pouvait se retirer de ce festin brillant? Lucien avait un pied dans le lit de Coralie et l'autre dans la glu du journal, au devant duquel il avait tant couru sans pouvoir le joindre. Après tant de factions montées en vain rue du Sentier, il trouvait le journal attablé, buvant frais, joyeux, bon garçon. Il venait d'être vengé de toutes ses douleurs par un article qui devait le lendemain même percer deux cœurs où il avait voulu, mais en vain, verser la rage et la douleur dont on l'avait abreuvé. En regardant Lousteau, il se disait « Voilà un ami !» sans se douter que déjà, Lousteau le craignait comme un dangereux rival. Lucien avait eu le tort de montrer tout son esprit. Un article terne l'eût admirablement servi. Blondet contrebalança l'envie qui dévorait Lousteau en disant à Finot qu'il fallait capituler avec le talent quand il était de cette force-là. Cet arrêt dicta la conduite de Lousteau, qui résolut de rester l'ami de Lucien et de s'entendre avec Finot pour exploiter un nouveau venu si dangereux en le maintenant dans le besoin. Ce fut un parti pris rapidement et compris dans toute son étendue entre ces deux hommes par deux phrases dites d'oreille à oreille. Il a du talent. Il sera exigeant. Oh, bon. Je ne soupe jamais sans effroi avec les journalistes français, dit le diplomate allemand avec une bonhomie calme et digne, en regardant Blondet qu'il avait vu chez la comtesse de Montcornet. Il y a un mot de Blücher que vous êtes chargé de réaliser.
Quel mot? Dit Nathan.
Quand Blücher arriva sur les hauteurs de Montmartre avec Saaken en 1814, pardonnez-moi, messieurs, de vous reporter à ce jour fatal pour vous, Saaken, qui était un brutal, dit « Nous allons donc brûler Paris. »« Gardez-vous-en bien, la France ne mourra que de ça, » répondit Blücher en montrant ce grand chancre qu'il voyait étendu à leurs pieds, ardent et fumé dans la vallée de la Seine. « Je bénis Dieu de ce qu'il n'y a pas de journaux dans mon pays, » reprit le ministre après une pause. Je ne suis pas encore remis de l'effroi que m'a causé ce petit bonhomme coiffé de papier qui, à 10 ans, possède la raison d'un vieux diplomate. Aussi ce soir, me semble-t-il que je soupe avec des lions et des panthères qui me font l'honneur de velouter leurs pattes. Il est clair, dit Blondet, que nous pouvons dire et prouver à l'Europe que votre Excellence a vomi un serpent de ce soir, qu'elle a manqué l'inoculer à Mademoiselle Tullia, la plus jolie de nos danseuses, et là-dessus faire des commentaires sur Ève, la Bible, le premier et le dernier péché. Mais rassurez-vous, vous êtes notre hôte. Ce serait drôle, dit Finot. Nous ferions imprimer la dissertation scientifique sur tous les serpents trouvés dans le cœur et dans le corps humain pour arriver au corps diplomatique, dit Lousteau. Nous pourrions monter un serpent quelconque dans ce bocal de cerises à l'eau de vie, dit Vernou. Vous finiriez par le croire vous-même, dit Vignot au diplomate. Le serpent est assez ami de la danseuse, dit Dubruel. Dites d'un premier sujet, reprit Tullia. « Messieurs, ne réveillez pas vos griffes qui dorment !» s'écria le duc de Rhétoré. « L'influence et le pouvoir du journal n'est qu'à son aurore, » dit Finot. « Le journalisme est dans l'enfance, il grandira. Tout, dans 10 ans d'ici, sera soumis à la publicité. La pensée éclairera tout. »« Elle flétrira tout, » dit Blondet en l'interrompant Finot. « C'est un mot, » dit Claude Vignon. « Elle fera des rois, » dit Lousteau. « Et défera les monarchies, » dit le diplomate. Aussi, dit Blondet, si la presse n'existait point, faudrait-il ne pas l'inventer. Mais la voilà, nous en vivons. Vous en mourrez, dit le diplomate. Ne voyez-vous pas que la supériorité des masses, en supposant que vous les éclairiez, rendra la grandeur de l'individu plus difficile? Qu'en semant le raisonnement au cœur des basses classes, vous récolterez la révolte et que vous en serez les premières victimes? Que casse-t-on à Paris quand il y a une émeute? Les réverbères, dit Nathan. Mais nous sommes trop modestes pour avoir des craintes. Nous ne serons que fêlés. Vous êtes un peuple trop spirituel pour permettre à un gouvernement de se développer, dit le ministre. Sans cela, vous recommenceriez avec vos plumes la conquête de l'Europe que votre épée n'a pas su garder. Les journaux sont un mal, dit Claude Vignon. On pouvait utiliser ce mal, mais le gouvernement veut le combattre. Une lutte s'en suivra. Qui succombera? Voilà la question. Le gouvernement, dit Blondet. Je me tue à le crier. En France, l'esprit est plus fort que tout. Les journaux ont de plus que l'esprit de tous les hommes spirituels, l'hypocrisie de Tartuffe. Blondet, Blondet, dit Finot, tu vas trop loin, il y a des abonnés ici.
Tu es propriétaire d'un de ces entrepôts de venin, tu dois avoir peur. Mais moi, je me moque de toutes vos boutiques, quoique j'en vive.
Blondet a raison, dit Claude Vignon. Le journal, au lieu d'être un sacerdoce, est devenu un moyen pour les partis. De moyen, il s'est fait commerce. Et comme tous les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est, comme le dit Blondet, une boutique où l'on vend au public des paroles de la couleur dont il les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et matin la beauté, la bonté et la nécessité des bossus. Un journal n'est plus fait pour éclairer, mais pour flatter les opinions. Ainsi, tous les journaux seront dans un temps donné lâches, hypocrites, infâmes, menteurs, assassins. Ils tueront les idées, les systèmes, les hommes et fleuriront par cela même. Ils auront le bénéfice de tous les êtres de raison. Le mal sera fait sans que personne en soit coupable. Je serai, moi, Vignon, vous serez, toi, Lousteau, toi, Blondet et toi, Finot, des Aristides, des Platons, des Catons, des hommes de Plutarque. Nous serons tous innocents, nous pourrons nous laver les mains de toute infamie. Napoléon a donné la raison de ce phénomène moral ou immoral, comme il vous plaira, dans un mot sublime que lui ont dicté ses études sur la Convention. Les crimes collectifs n'engagent personne. Le journal peut se permettre la conduite la plus atroce, personne ne s'en croit sali personnellement. Mais le pouvoir fera des lois répressives, dit de Bruel. Il en prépare. Bah, que peut la loi contre l'esprit français, dit Nathan, le plus subtil de tous les dissolvants. Les idées ne peuvent être neutralisées que par des idées, reprit Vignon. La terreur, le despotisme peuvent seuls étouffer le génie français dont la langue se prête admirablement à l'allusion, à la double entente. Plus la loi sera répressive, plus l'esprit éclatera, comme la vapeur dans une machine à soupape. Ainsi, le roi fait du bien. Si le journal est contre lui, ce sera le ministre qui aura tout fait, et réciproquement. Si le journal invente une infâme calomnie ou la lui a dite, à l'individu qui se plaint, il sera quitte pour demander pardon de la liberté grande. S'il est traîné devant les tribunaux, il se plaint qu'on ne soit pas venu lui demander une rectification. Mais, demandez-la lui, il la refuse en riant. Il traite son crime de bagatelle. Enfin, il bafoue sa victime quand elle triomphe. S'il est puni, s'il a trop d'amende à payer, il vous signalera le plaignant comme un ennemi des libertés, du pays et des Lumières. Il dira que monsieur Attel est un voleur en expliquant comment il est le plus honnête homme du royaume. Ainsi ses crimes, bagatelles, ses agresseurs, des monstres. Et il peut, en un temps donné, faire croire ce qu'il veut à des gens qui le lisent tous les jours. Puis, rien de ce qui lui déplaît ne sera patriotique, et jamais il n'aura tort. Il se servira de la religion contre la religion, de la charte contre le roi. Il bafouera la magistrature quand la magistrature le froissera, il la louera quand elle aura servi les passions populaires. Pour gagner des abonnés, il invitera les fables les plus émouvantes, il fera la parade comme Bobèche. Le journal servirait son père tout cru à la crococelle de ses plaisanteries, plutôt que de ne pas intéresser ou amuser son public. Ce sera l'acteur, mettant les cendres de son fils dans l'urne pour pleurer véritablement. La maîtresse, sacrifiant tout à son ami.
C'est enfin le peuple in-folio, s'écria Blondet en interrompant Vignon.
Le peuple hypocrite et sans générosité, reprit Vignon. Il bannira de son sein le talent comme Athènes a banni Aristide. Nous verrons les journaux, dirigés d'abord par les hommes d'honneur, tombés plus tard sous le gouvernement des plus médiocres, qui auront la patience et la lâcheté de gomme élastique qui manquent au beau génie ou à des épiciers qui auront de l'argent pour acheter des plumes. Nous voyons déjà ces choses-là. Mais dans 10 ans, le premier gamin sorti du collège se croira un grand homme. Il montera sur la colonne d'un journal pour souffleter ses devanciers. Il les tirera par les pieds pour avoir leur place. Napoléon avait bien raison de museler la presse. Je gagerais que, sous un gouvernement élevé par elle, les feuilles de l'opposition battraient en brèche par les mêmes raisons et par les mêmes articles qui se font aujourd'hui contre celui du roi, ce même gouvernement au moment où il leur refuserait quoi que ce fût. Plus on fera de concessions aux journalistes, plus les journaux seront exigeants. Les journalistes parvenus seront remplacés par des journalistes affamés et pauvres. La plaie est incurable, elle sera de plus en plus maligne, de plus en plus insolente. Et plus le mal sera grand, plus il sera toléré jusqu'au jour où la confusion se mettra dans les journaux par leur abondance, comme à Babylone. Nous savons tous, tant que nous sommes, que les journaux iront plus loin que les rois en ingratitude. Plus loin que les plus sales commerces en spéculation et en calcul, qu'ils dévoreront nos intelligences à vendre tous les matins leurs 3-6 cérébrales.
Mais nous y écrirons tous, comme ces gens qui exploitent une mine de vice-argent, sachant qu'ils y mourront. Voilà là-bas, à côté de Coralie, un jeune homme. Comment se nomme-t-il ? Lucien. Il est beau, il est poète, et ce qui vaut mieux pour lui, homme d'esprit. Eh bien, il entrera dans quelques-uns de ces mauvais lieux de la pensée appelés journaux, il y jettera ses plus belles idées, il y desséchera son cerveau, il y corrompra son âme, il y commettra ces lâchetés anonymes qui, dans la guerre des idées, remplacent les stratagèmes, les pillages, les incendies, les revirements de bord dans la guerre des condottieri. Quand il aura, lui, comme mille autres, dépensé quelques beaux génies au profit des actionnaires, ces marchands de poison le laisseront mourir de faim s'il a soif, et de soif s'il a faim. « Merci, » dit Finot. « Mais mon Dieu, » dit Claude Vignon, « je savais cela, je suis dans le bagne, et l'arrivée d'un nouveau forçat me fait plaisir. Blondet et moi, nous sommes plus forts que messieurs tels et tels qui spéculent sur nos talents, et nous serons néanmoins toujours exploités par eux. Nous avons du cœur sur notre intelligence, il nous manque les féroces qualités de l'exploitant. Nous sommes paresseux, contemplateurs, méditatifs, jugeurs. On boira notre cervelle, et l'on nous accusera d'inconduite. J'ai cru que vous seriez plus drôle, s'écria Florine. Florine a raison, dit Blondet. Laissons la cure des maladies publiques à ces charlatans d'hommes d'État. Comme dit Charlet, cracher sur la vendange, jamais. Savez-vous de quoi Vignon me fait l'effet? Dit Lousteau en montrant Lucien. D'une de ces grosses femmes de la rue du Pélican qui dirait à un collégien, mon petit, tu es trop jeune pour venir ici. Cette saillie fit rire, mais elle plut à Coralie. Les négociants buvaient et mangeaient en écoutant. « Quelle nation que celle où il se rencontre tant de bien et tant de mal !» dit le ministre-duc de Rhétoré. « Messieurs, vous êtes des prodigues qui ne pouvaient pas vous ruiner. »